Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Il est 11h. Bienvenue dans Dedans Dehors, la zone de légèreté en temps de confinement, saison 2. C'est Sylvie au micro pour une heure de croisière en douceur. Douceur, sourire, bienveillance, rire, amour, autant de bien jolis mots auxquels on se raccroche. On tente de s'enrouler dedans, de se couler dans la ouate au risque parfois de finir par s'en écœurer, car l'humain aime la contradiction. Alors, on tente de trouver un équilibre entre cette douceur et la rébellion, une saine colère qui gronde. Nous sommes toutes et tous mis face à notre impuissance d'humaines et d'humains devant ce que la vie nous assène. Oui, nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, nous n'en sommes qu'une composante. Aïe, ça pique ! Humains qui pensaient régir le monde à leur convenance et avoir les rênes bien en main. Alors forcément, ça nous déglingue. Aucune idée prémâchée qui puisse s'ériger en vérité absolue, personne n'a de réponse validée, certifiée. Chacun à son endroit cherche qui des solutions, qui des raisons, qui des responsables. Tout ça parce que notre ego ne supporte pas de devoir faire silence, d'accepter de dire « je ne sais pas ». Et si on laissait un peu de temps aux chercheurs et chercheuses ? Aux véritables journalistes d'investigation, aux soignantes et soignants, à toutes celles et tous ceux dont c'est le travail et qui savent que chercher, quoi que ce soit, ça prend du temps. Si on leur laissait ce bénéfice, bien sûr en restant vigilante et vigilant, sans donner un blanc-seing à qui que ce soit et en se laissant la liberté de choisir de remettre en question certaines mesures insensées, par exemple. Mais si on acceptait de lâcher un peu et que l'on refusait d'alimenter les faiseurs de rumeurs, les fabricants de complots et toute une fange qui ne vit que sur notre peur et sur notre colère. Gardons nos saines saillies, mais n'entretenons pas ce qui ne fabrique au final que de la haine. Pour la loufoquitcherie du jour, le morceau qui fait sourire, je vous propose de partir au Québec, où la bottine souriante s'occupe du gourmand.
Aussitôt que la lumière vient éclairer mon chevet, je commence ma carrière à visiter mon buffet. À chaque mer que je touche, je me crois l'égal de Dieu, mais ceux qui épargnent ma bouche sont dévorés par mes yeux. Boire est un plaisir coupable pour l'ami de la gaieté. On boit quand on est malade et on mange en bonne santé. Quand mon plaisir m'entraîne, je me permets volupté. Assis la bouche pleine sur les débris d'un pâté. Un cuisinier quand je dîne me semble un être divin, qui au fond de sa cuisine gouverne le genre humain. Qui si bas on le contemple comme un ministre du ciel, que la cuisine est un temple dont les fourneaux sont l'autel.
Que la cuisine est un temple dont les fourneaux sont l'autel.
Lorsque je rentre chez le traiteur du quartier, je veux toujours que mon ventre s'y présente le premier. Un jour le mets qu'on m'apporte saura si bien me rondir qu'à moins d'élargir la porte, je ne pourrai plus sortir. Au milieu d'un grand repos, qu'on m'enterre sous la nappe entre quatre larges plots, et que sur ma tombe on mette cette très douce inscription. Si j'y le premier poète mort d'une indigestion.
La bottine souriante avec Le Gourmand pour ce morceau qui fait sourire de ce jeudi 12 novembre. Au sommaire de ce jeudi 12 novembre dans Dedans Dehors, eh bien, c'est jeudi Gypsy avec Armelle Vautreau. C'est jeudi Gypsy spécial aujourd'hui puisque nous allons parler bouquin avec Armelle qui nous présente un ouvrage écrit à quatre mains avec Fred De Wilde, Dessine-moi un trauma. Puis je vous proposerai une visite au musée de Valence par les oreilles. Alors quand je dis « je », c'est « nous », c'est aussi le musée de Valence pour découvrir l'exposition Philippe Favier All Over autour de podcast. Et puis Marie-Julie, elle, viendra nous rejoindre pour les recettes de placard de Marie-Julie, elle, où il sera question de farine de sarrasin et de pommes au four. Et ça sent déjà bon dans le studio. Et on finira, comme tous les jours, par le morceau qui adoucit la journée, bien évidemment. Et tout de suite, c'est The Fratellis avec Chelsea Dagger.
Chelsea, I believe in when you dance and slowly suck in your sleep.
C'est jeudi, j'ai psy. Bonjour Armel.
Bonjour Sylvie.
Alors aujourd'hui, c'est jeudi, j'ai psy, un petit peu particulier puisqu'il s'agit de... Alors on pourrait parler d'autopromo, mais ce n'est pas vraiment que de l'autopromo. En fait, Armel, tu as rédigé un livre à quatre mains. Alors on va dire écrit-dessiné.
J'adore ce mot valise. Vraiment, je te remercie de l'avoir créé. Je l'ai vu tout à l'heure sur la page Facebook. J'adore ce mot valise. Mais quelle bonne idée. Je suis sûre que Fred va adorer.
Alors, ce écrit-dessiné à quatre mains, dessine-moi un trauma avec Fred De Wilde. Donc Fred De Wilde est graphiste spécialisé en illustration médicale, illustrateur, auteur de BD, etc. Toi, on te connaît pour être notre chroniqueuse et plein d'autres choses. Puisque tu es un professeur de lettres devenu thérapeute, universitaire, auteur, directrice de collection d'ouvrages scolaires, etc., etc., etc. Et que tous les deux, vous vous êtes retrouvés parce que Fred De Wilde est un rescapé du Bataclan. Et qui a fait son chemin depuis cette horreur et qui a fait son chemin dans le trauma et que toi c'est le centre de ta recherche universitaire en doctorat puisque c'est écrire le trauma.
Oui, tout à fait.
Donc vous vous êtes retrouvés autour de cette chose, pourrait-on appeler, qu'on nomme le traumatisme. De écrire le trauma, c'est devenu « Dessine-moi un trauma », c'est devenu un livre. Mais avant de parler du livre, vraiment, comment s'est fait la rencontre entre vous deux ?
Ben, écoute, c'est un peu la magie des réseaux sociaux, en fait. Et puis aussi par l'entremise de gens bienveillants. Quand j'ai recommencé des études en 2017, des études de psy, puisque comme tu l'as dit, j'étais prof de lettres avant, j'ai commencé à travailler sur l'écriture du trauma, et donc je travaillais spécifiquement sur tous les écrits publiés après les attentats de 2015. Mmh. Et puis en discutant avec une amie qui était prof de lettres aussi, qui me dit, bah, tu sais, moi dans mon collège, il y a un survivant de l'attentat du Bataclan qui est prof d'histoire, donc qui s'appelle Christophe Naudin, et qui vient aussi de publier un bouquin et qui est très intéressant. Elle me met en lien avec ce Christophe Naudin. Et en fait, par le lien, je me retrouve sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, comme il est très impliqué dans Life for Paris, donc qui est une association issue justement du lendemain des attentats, je me retrouve à discuter avec tous les gens dont j'étudiais les livres depuis déjà plusieurs mois. Et c'est notamment Caroline Langlade, à qui je dois beaucoup, qui a été le premier ouvrage que j'ai lu sur le Bataclan, qui s'appelle Sortie de secours, qui est formidable. Caroline qui dit sur la page de Christophe, regarde Fred. Elle parle aussi de ton livre, parce que j'avais pris en photo en fait tous les livres sur lesquels j'étais en train de travailler en recherche universitaire. Et c'est elle qui a fait finalement comme ça, avec ce poste, le lien entre Fred et moi. Fred me contacte, qui me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites sur mon livre, etc. » Et je lui explique un petit peu ce sur quoi je travaille. Je lui dis qu'en plus, son livre à lui était particulier parce que c'était une bande dessinée et que donc l'approche par le dessin était justement pour moi originale aussi, un peu plus innovante que ce que j'avais l'habitude de faire en tant que prof de lettres. Mmh. Et on a noué comme ça une relation un peu plus intime, un peu plus en aparté, on va dire. Et puis je lui dis, voilà, moi je vois telle chose dans tel dessin, par exemple telle planche, telle page. Il me dit, ah bon, je pensais pas à ça. Bon, vraiment, vous voyez ça. Et il a commencé à m'envoyer un ou deux dessins qui étaient inédits, qui n'avaient pas du tout servi dans sa bande dessinée. Mmh. Et j'ai commencé à les interpréter, à lui dire, bah là, moi, je vois ça, là, moi, le tentacule, pour moi, c'est l'inconscient, etc., etc. Et il a trouvé ça intéressant, et il m'a dit, mais j'en ai plein comme ça, des inédits, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble avec ça ? Mmh. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti chacun un peu sur notre entrée. C'est-à-dire que lui m'a balancé des dessins comme ça, mais de manière complètement aléatoire. Il n'y avait pas d'ordre, et c'était très exaltant d'ailleurs. Il n'y avait pas d'ordre, simplement les dates auxquelles il avait fait ses dessins. Et moi, de mon côté, j'ai commencé à déplier toute une série de notions qui sont autour du trauma, que je commençais à étudier vraiment sérieusement en recherche universitaire. Et on a essayé de voir de quelle manière les notions et ses dessins pouvaient se rencontrer et faire écho.
Alors effectivement, c'est vraiment, quand je dis à quatre mains, parce que du coup c'est vraiment ça, l'un s'est nourri de l'autre. Il t'a envoyé donc ses dessins. Est-ce qu'il y a un moment où toi tu as commencé à aller peut-être plus loin sur certaines notions et du coup lui a créé des dessins en fonction des choses que tu lui apportais? Ou est-ce que ça a continué à être, c'est vraiment ses dessins et toi tu as travaillé dessus?
Je pense qu'on s'est un peu contaminés tous les deux et ce n'est pas forcément un processus conscient en fait. C'est-à-dire que quand je lui ai balancé toute une liste, je me souviens, je lui ai fait une liste en fait sous forme de liste alphabétique. Je lui ai fait une liste alphabétique de notions. Mais il y a des notions, par exemple, qui ne sont pas tout publiques, du type l'abréaction. L'abréaction, c'est pas... Autant tout le monde connaît la résilience, le déni, bon, OK. Autant l'abréaction, ce n'est pas du tout quelque chose de tout public. Et je lui ai dit, justement, écoute, moi, je te balance les mots, mais ne va pas chercher ce que c'est. Vois si peut-être toi, spontanément aussi, ça réagit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Peut-être qu'est-ce que le mot juste, éventuellement, t'évoque? Et donc, en fait, voilà, c'était vraiment un travail qui était à la fois asynchrone et synchrone. Je lui balançais des trucs, il m'en sortait d'autres, il m'en balançait, je lui en sortais d'autres. Enfin, voilà, c'était... je crois qu'on ne saurait même plus dire maintenant, parce que le travail remonte à il y a 2 ans maintenant, le temps que la publication se fasse. Je crois qu'on ne saurait plus vraiment dire à chaque fois qui a été à l'origine de quoi, finalement.
Alors, cet ouvrage, il est vraiment unique en son genre, puisque je disais, il est écrit, dessiné, c'est vraiment ça. C'est qu'on a, factuellement, il se présente, on a une page de texte autour d'une notion, d'une entrée, voilà, et une planche, un dessin, voire plusieurs sur certaines pages, mais on a vraiment c'est pas de la bande dessinée, c'est les deux servent autant, je dirais, et que à la limite on va avoir la lecture des mots autant que la lecture du dessin.
Exactement. C'était tout à fait ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas cherché à faire une organisation. On s'est beaucoup posé la question de l'organisation. Est-ce qu'il fallait faire un sommaire? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose d'alphabétique, de temporel, et finalement, j'ai laissé Fred gérer. Je lui ai dit, fais comme tu le sens pour l'organisation. Et finalement, il est parti sur les dates des dessins. Voilà, parce que finalement, ça correspond aussi à l'évolution du trauma, du SSPT et de l'avancée vers la résilience. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait, c'est que ça soit finalement à entrée malléable. C'est-à-dire que, d'abord, ça peut se lire de manière très portionnée. Tu peux lire juste 2 pages comme ça et y revenir un mois plus tard, ou le lire d'un coup, etc. Tu peux le lire parce que tu cherches quelque chose, tu cherches une notion. Tu veux savoir, tu veux comprendre ce que c'est que la dissociation, le déni, la résilience. Tu peux aller chercher ces mots-là. Mais tu peux aussi simplement l'ouvrir et te laisser saisir par un dessin au hasard et partir du dessin qui te saisit pour essayer de voir ce que moi, j'ai écrit derrière, dessus, en fait. Donc, toutes les entrées sont possibles. Et c'est vrai qu'en ça, l'ouvrage ressemble à aucun autre, quoi. D'ailleurs, pour le définir, je trouve que l'avant-propos de l'éditeur est très bien parce que ça explique bien ça. C'est-à-dire que ça ressemble à rien d'autre, oui, ça c'est sûr. Et en même temps, ça se nourrit de plein de choses. Évidemment, lui de la BD, moi plutôt de la sémiologie, c'est-à-dire l'analyse des signes, l'analyse du texte, la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, un peu de philosophie aussi. Voilà, on est parti sur plein de domaines différents qui se nourrissent et qui nous permettent d'essayer de comprendre ensemble et avec les gens qui le liront ce que c'est que le trauma, comment ça fonctionne, comment ça se déploie, comment ça se déplie, et comment, évidemment, on peut aller vers une résolution de cet état traumatique, c'est le but.
Tu as dit SSPT, qu'est-ce que c'est que le SSPT?
C'est le syndrome de stress post-traumatique. Alors parfois on dit PTSD, c'est la version anglaise, c'est très intéressant la notion de SSPT parce que c'est un peu la même chose puisqu'on en a déjà parlé ensemble quand on parle de syndrome des troubles de troubles autistiques, c'est-à-dire que l'idée de syndrome fait qu'on a plusieurs possibilités de symptômes, plusieurs possibilités de réactions. Et donc, ça ouvre quelque chose de beaucoup plus large dans l'analyse clinique. Le SSPT, c'est très, très vaste. C'est très personnalisé. C'est même parfois genré, c'est-à-dire que les femmes ne le manifestent pas de la même manière que les hommes. Il y a des adaptations qui sont différentes, il y a des mécanismes de défense qui sont différents. Mais surtout, c'est très très large, parce que ça va de symptômes qui sont très physiques, qui vont être du tremblement, de l'insomnie, de l'hypervigilance, des addictions, etc., à des choses qui sont beaucoup plus fines, l'hypersensorialité, justement cette hypervigilance aussi à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'entends, et puis quelque chose qui est vraiment beaucoup plus psychique, c'est-à-dire de l'ordre des ruminations, etc. Donc tu vois, il y a vraiment tout un tableau clinique qui est extrêmement large, qui touche le physique, le psychologique, et surtout ce qui est intéressant avec l'idée du SSPT, c'est qu'on sait maintenant que ça peut se lire sur des mois et des années. Et ça, c'est important parce que il y a encore une dizaine d'années, on considérait que bon, on avait l'événement traumatique, on était traumatisé, on guérissait ça en quelques semaines et c'était réglé. Oui, oui. Or, on sait maintenant que le SSPT, d'abord parfois, se manifeste des mois, voire des années après. Quand il y a la mémoire traumatique qui rentre en jeu, l'amnésie traumatique, pardon. Parfois, c'est des années après que ça se réveille. Donc, il faut juste essayer, dans l'approche clinique, d'aller chercher, d'aller retrouver l'événement ou les événements traumatiques, parce que parfois, ça vous prend par surprise très longtemps après. Donc, c'est ça aussi l'idée du SSPT, c'est cette chronologie, cette temporalité qui est très élargie et qui, parfois, du coup, est très floue, très vague.
Oui, le traumatisme, il s'inscrit en profondeur et ça, il faut l'entendre et le prendre vraiment en conscience. Tu as parlé d'évolution et moi, j'aime bien ce mot parce que d'abord, il est porteur de plein d'espoir. Et d'évolution, et on parle beaucoup de reconstruction. Alors que peut-être tout réside dans ce mot évolution et qui va permettre non pas une reconstruction, mais une construction nouvelle.
Oui, vraiment, et tu vois, quand j'ai fait ce livre avec Fred, c'était déjà il y a 2-3 ans, le temps de tout mettre en route, et plus j'avance moi dans ma recherche universitaire, parce que là maintenant je suis en fin de doctorat sur cette thématique-là, et plus je me dis qu'il faut parler de construction et pas de reconstruction. L'idée de reconstruire, ça voudrait dire qu'on reprend les choses là où elles étaient avant. Or, c'est impossible. C'est impossible. Le trauma a créé une effraction, a créé une dislocation qui fait que oui, évidemment, on va essayer de ramasser les pièces et de rassembler le puzzle, mais il y a des pièces qui sont abîmées, il y a des pièces qui sont perdues. On ne pourra jamais reconstruire à l'identique. Les patients, malheureusement, le demandent parfois et disent « je voudrais que ça redevienne comme avant ». Ça ne sera jamais comme avant. Donc, de toute façon,
ça sera autre chose, par contre.
Bien sûr. On ne peut pas chercher avec une espèce de... Je voudrais revenir en arrière, mais je n'y arrive pas. On ne peut pas chercher ça. En revanche, ce qu'il faut, c'est construire. Construire par-dessus, par-delà, avec, malgré. Mais il faut construire quelque chose de nouveau parce qu'on est finalement un être nouveau avec ce trauma qui fait partie de nous et de notre vie, mais qui ne va pas empêcher, effectivement, qu'on construise quelque chose de merveilleux derrière.
Alors, dessine-moi un trauma, vous retrouverez toutes ces notions et puis bien d'autres. Vous retrouverez ce chemin dans ce livre, Dessine-moi un trauma, par Armelle Vautreau et Fred De Wilde. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. On le trouve où, puisque en cette période si particulière, c'est le moment ou jamais de se plonger dans ces livres-là. On le trouve dans toutes les bonnes charcuteries, comme on dit.
En fait, il est en précommande absolument partout, puisqu'il sort le 26 novembre. Donc, on peut absolument le précommander partout. Je sais qu'il y a des gens qui l'avaient précommandé avant le confinement dans des librairies. Donc, j'imagine qu'après, en click and collect, il n'y a pas de souci. Sur toutes les plateformes qu'on connaît, même des moins inconnues. Donc, il est absolument accessible de partout.
Très bien. On va se précipiter dessus. Et puis, peut-être d'autres avenirs. Est-ce que cette collaboration t'a donné envie, justement, ou vous a donné envie de créer d'autres choses, de travailler sur d'autres sujets.
On embraye sur d'autres projets.
Super, très bien.
Des projets individuels et des projets communs.
Bravo pour ce très bel ouvrage. Et puis longue vie à lui, qu'il puisse faire sa vie malgré la période complexe, on va dire.
Je te prends 10 secondes oui. pour dire ça, parce que c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui consomment beaucoup locaux, et donc là, je soutiens les commerçants, je continue à aller commander chez mes restaurateurs, mon fleuriste, etc. Mm-hmm. Parce que partout, on dit qu'il faut sauver les commerces, mais il n'y a absolument rien qui est fait en direction des artistes, rien du tout, même localement. Moi, j'ai alerté la mairie, la communauté de communes. On n'a aucune visibilité, on ne nous propose même pas un petit encart sur Facebook pour dire oui, c'est bien de soutenir les commerçants, mais il faut soutenir aussi les artistes. Il n'y a rien qui est fait, rien qui est fait pour nous. On n'a pas de visibilité, on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, on n'a rien, tout le monde s'en fout, c'est la culture, ça compte pas.
C'était très bien de... voilà. j'approuve à 100% ce coup de gueule.
Et
c'est pour ça qu'ici, c'est pour ça que sur Radio BLV, on essaye de les défendre au maximum, les artistes. Merci beaucoup, Armelle.
Merci à toi, Sylvie. Très bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'est jeudi, j'ai psy.
Cabaret contemporain dans un extrait de leur hommage à Moondog, cabaret contemporain qu'on a pu voir notamment à Luxe, quand on pouvait encore aller voir du spectacle vivant en live. Et on espère toutes et tous que ça va revenir bien vite, comme disait Armelle. On parle beaucoup de l'achat, on parle beaucoup des commerces, mais on parle finalement très très peu des artistes. Et tout ce qui a été rangé au rang de non essentiel. La culture est essentielle pour vivre autant que le boire et le manger. On ne le dira jamais assez fort. Vous écoutez Radio BLV 93.6, vous êtes bien installé dans Dedans Dehors et on va maintenant se régaler. Je suis sûre que vous sentez derrière vos postes de radio les parfums, les effluves. On va retrouver tout de suite Marie-Julie.
T'as déjà goûté une andouille ?
Non.
C'est épicé, t'aimes les épices ?
Non.
C'est pas si épicé que ça, allez viens.
Un soupe de nos grands-mères ?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre. Bon. Et surtout attention l'eau, parce que l'eau c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues ? D'abord, chez vous, eh bien il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Et voilà, c'est... Non, le morceau d'après ne part pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonjour Marie !
Salut Sylvie, salut à toutes et à tous.
Alors on retrouve donc Marie pour les recettes de placard de Marie-Julie, elle. Et je vous disais, ça sent sacrément bon dans le studio, parce que d'abord on est plein d'imagination, et puis parce qu'elle nous a vraiment apporté de quoi goûter. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a dans ton placard aujourd'hui ?
Alors, dans mon placard, j'ai trouvé un fond de farine de sarrasin, un bocal de piquillos et du miel. Puis j'ai ouvert le congélo, j'avais un sachet de calamar. Alors je me suis fait une jolie attestation et je suis allée chercher des pommes, des poires et des oignons cébettes. Je vous propose aujourd'hui une galette coréenne au calamar et des pommes au miel au four. La galette, vous pouvez la faire avec ce que vous avez, des crevettes, un mélange de fruits de mer ou même une boîte de thon. Pour une version végé avec des légumes. En fait, vous faites avec ce que vous avez dans votre placard. C'est une galette très populaire en Corée qu'on prépare avec ce qu'on a. C'est un peu notre pizza, quoi. Et pour le dessert, je vous propose des fruits au miel. C'est parti, Sylvie, on file en cuisine ?
Allez, on y va.
On commence par préparer le dessert qui tiédira gentiment pendant qu'on préparera notre galette. Alors, pour les fruits, vous choisissez 8 fruits, des pommes, des poires un peu mûres. Ce que vous avez, en fait, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous épluchez les fruits, vous enlevez le cœur avec un vide-pomme et vous les placez dans un petit plat à gratin. On se concentre, attention, parce que là, on prépare les pommes au four les plus gourmandes du quartier. On va y ajouter une sauce au miel pour les assaisonner et c'est d'une simplicité enfantine. Dans une casserole, faites chauffer à feu doux 100 g de miel, 30 g de sucre, 30 g de beurre et de la cannelle si vous aimez, une demi-cuillère à café ou un gros bâton. Vous versez le mélange fondu sur les fruits et enfournez pour 45 minutes. En cours de cuisson, arrosez les fruits avec la sauce 3 fois. Nos fruits cuisent et nous allons pouvoir passer à la préparation de notre plat. On prépare une jolie salade et quelques crudités qui accompagneront notre galette pour en faire une assiette unique. Tout sur la table, on préfère, nous, les mamans. Mélangez 100 g de farine de sarrasin et 100 g de farine de blé. Ajoutez un œuf. En continuant d'amalgamer, on va ajouter 250 g d'eau. À cette pâte, vous pouvez incorporer la garniture, 2 oignons verts ciselés. On cisèle l'oignon en entier, du blanc au vert. Vous voyez, c'est les oignons cébettes qui sont longs. On en trouve encore en ce moment. Vous prenez votre boîte de piquillos. Les piquillos, ce sont des poivrons qui ont été brûlés. La peau a été enlevée, ils sont mis en conserve. Bien qu'en ce moment, vous puissiez encore trouver des piments frais ou des poivrons, vous pouvez ajouter également une cuillère à café de flocons de piment ou si vous aimez les recettes très épicées, carrément, mettez un petit piment frais. On ajoute ensuite les 200 g de calamar qu'on a fait préalablement décongeler, les fruits de mer ou les légumes que vous avez choisis.
On les a fait un peu égoutter.
Oui, on égoutte bien, on sèche même. On sèche, la recette ne doit pas être trop mouillée. Dans une poêle, vous faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile, de préférence de sésame, sinon l'huile que vous avez conviendra parfaitement. On verse la préparation de la galette et on laisse cuire à feu moyen 4 minutes environ. Vous devez pouvoir la détacher facilement quand vous secouez la poêle. Donc on voit le geste, on secoue comme une crêpe qui glisse au fond de la poêle. Il est le moment tant redouté pour certains de retourner la galette pour la faire cuire sur la face B. C'est le moment le moins simple, d'accord. Si vous avez l'habitude de faire des omelettes et des tortillas à la poêle, tout va bien. Faites comme d'hab. Sinon, faites glisser la galette sur une assiette et retournez-la très rapidement dans la poêle chaude. Faites cuire encore 4 minutes. Voilà, la galette est prête. Donc, on n'a pas assaisonné notre galette, vous avez suivi, il n'y a pas de sel. Donc, on va la servir avec une sauce salée, qu'on va préparer avec de la sauce soja. J'espère que vous en avez dans vos placards. Sinon, allez en acheter une petite bouteille, on peut s'en servir dans beaucoup de choses. On y ajoutera 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, ou de vinaigre de cidre, ou de vinaigre de vin, 1/2 gousse d'ail écrasée, un peu du verre des cébettes qu'on avait mis de côté, et un petit peu de piment. Ensuite, on peut couper la galette en morceaux qu'on plongera dans la sauce. Voilà, on a fini nos préparations. On passe à table.
Waouh ! Et alors là, on a les papilles qui
frétillent.
Et c'est simple, c'est bon. C'est l'épaisseur de la galette.
Elle fait à peu près 1 cm. Voilà,
voilà. Pour 4 minutes de chaque côté.
Pour 4 minutes de chaque côté, c'est le temps nécessaire pour que les calamars soient cuits. Parce que les calamars, soit on les fait cuire très rapidement, soit on fait une cuisson un peu plus longue d'une heure. Entre deux, c'est un calamar dur.
Oui. C'est ce qu'on appelle du caoutchouc.
Voilà.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Marie. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine.
Eh bien, c'est parti. Jeudi à tous.
Et vous retrouvez le lien vers la recette de Marie sur notre site internet dès cet après-midi, en principe, si tout va bien. Merci beaucoup.
Merci à toi. Au revoir.
T'as déjà goûté une andouille ?
Non.
C'est épicé. T'aimes les épices ?
Non.
C'est pas si épicé que ça. Allez, viens.
La soupe de nos grands-mères ?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre. Bon. Et surtout, attention, l'eau. Parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues ? D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Ferre, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups, les loups.
Serge Reggiani, les loups sur Radio BLV 93.6 dans Dedans Dehors. Vous le savez, ce sont toujours des playlists sans tabou ni frontières, parce que la bonne musique et les bonnes chansons, ça n'a pas ni tabou ni frontières, qu'elles soient de temps, qu'elles soient de lieu. Qu'importe, ça fait toujours bien, beaucoup de bien de réécouter certaines choses et notamment cette chanson. Je vous propose maintenant d'aller au musée. Oui, oui, d'aller au musée, on le sait, on ne peut pas y aller, on est tous coincés, ça nous agace profondément. Donc, on va vous proposer d'aller au musée par les oreilles. Et c'est ce que nous propose le musée de Valence pour visiter l'exposition All Over, exposition de Philippe Favier. Alors, le musée nous propose 6 podcasts pour accompagner en forme d'interview de l'artiste et du commissaire d'exposition Thierry Raspail pour nous faire découvrir par les oreilles des petits bouts de cette exposition. Alors, c'est à retrouver sur le SoundCloud. Il vous suffit d'aller sur le site du musée de Valence et vous avez les liens pour aller faire cette balade par les oreilles. Je vous propose d'en écouter un de ces podcasts.
« Il y a des stocks de peaux, de poils, de crocodiles, de pitons. Il y a des oursins, À côté, il y a des tubes de diapositives en... de petits... toute une ribambelle de... un stock entier de...
Dans cette immensité qui tient dans quelques mètres carrés, il y a tous les mondes possibles. Quoi. Cette quantité, cette profusion, elle suppose que derrière, il y ait une structure, un monde. Est-ce que ces mondes-là sont organisés ou pas? Est-ce qu'ils ont un sens ou pas? Ça, c'est une question permanente que Philippe se pose et qu'il se pose d'autant plus à travers ce qu'il amasse.
L'idée de remplir l'espace, mais pas l'espace au sens l'espace mesurable, plus un espace virtuel, c'est un espace mental, d'une certaine manière, c'est remplir... c'est remplir sa vie.
Toute l'œuvre fourmillante, humoristique... pour une partie de Philippe Favier, est destiné en fait à cacher le tragique de la vie. Donc, il faut qu'il y ait toujours un potentiel de stock pour qu'il y ait toujours de la vie en potentiel. Et c'est dit avec une espèce de détachement. Et donc, curieusement, au bout du compte, c'est une façon de prendre de la hauteur tout en donnant l'impression qu'on est au ras des pâquerettes.
Là, il y a des tampons d'un assureur qui servait à faire jadis les constats d'assurance. Donc, c'est quelque chose de très rigolo, où il y a des petites voitures qui sont représentées, des camions, etc. Et on a fait, pour l'exposition, un petit document. C'est un petit hommage à Michel Piccoli que je m'octroie. Et on peut refaire la scène de l'accident de Michel Piccoli dans Les choses de la vie. Et peut-être faire qu'il ne rencontre pas un arbre et un panneau de signalisation. Encore entre les mains des possibilités, grâce à ces tampons, de changer le cours des choses. C'est une dimension qu'on n'imagine peut-être pas indispensable pour tous les artistes, mais en ce qui me concerne, moi, ça me semble tout à fait excitant. C'est l'idée qu'on peut changer un peu les choses. La vanité des artistes est toute concentrée dans cette sensation qu'ils ont de pouvoir transformer le monde.
Philippe Favier, donc, à découvrir dès qu'on pourra retourner au musée de Valence, pour l'exposition All Over et au travers donc de 6 podcasts à découvrir entre son univers et puis avec des interventions de Thierry Raspail, commissaire de l'exposition. Tout de suite, c'est Camarou avec Adeline, qui nous interprète Mango.
If he loves you truly, how
Camus avec Adeline, c'était Mango dans vos oreilles tout de suite pour se faire du doux. Se faire du doux, eh bien, on va s'en faire avec le morceau qui adoucit la journée puisqu'il est déjà temps de nous quitter. C'était Dedans Dehors. Si vous nous écoutez en rediffusion, il est donc autour de 17h57. Restez à l'écoute puisque vous retrouverez juste derrière la locale en direct. Eh bien, c'est de 12h15 à 13h tous les jours du mardi au jeudi. Et pour la rediffusion, c'est à 18h. Bien sûr, c'est tout de suite, c'est à la suite. 18h15 plus précisément. On se quitte avec Lynyrd Skynyrd, Mr. Banker, pour une version studio pour ce très très beau morceau qui adoucit la journée. Je vous souhaite le meilleur. Si vous ne restez pas avec nous, on se retrouve nous dans 10 jours, puisque la semaine prochaine je serai absente. J'ai le grand plaisir, pour tout vous dire, on se raconte tout, de retrouver, d'accueillir mon fils qui revient d'Écosse. C'est bon de se donner aussi des bonnes nouvelles. Je vous embrasse et à très vite.
Mr. Banker, Mr. Please, how much does money mean? Won't you reconsider, Mr.? Won't you do this thing for me? Thank you.
sir, ain't got no house, ain't got no car. Mr. Banker, please.